Emmanuel Kant, extrait d'Anthropologie, traduction par Joseph Tissot, Librairie Ladrange, 1863, pages 371 à 435, chapitre 3, Rêve d'un homme qui voit des esprits, expliqué par des rêves de la métaphysique, 1766. Veluti agrei somis vanae, finguntur species, orat. Un avertissement qui promet fort peu pour l'exécution. Le royaume des ombres est le paradis des fantastes. Ils y trouvent une terre sans limite où ils peuvent s'établir à volonté. Grâce aux vapeurs hypochondriaques, aux contes des nourrices et aux miracles des cloîtres, les matériaux ne sauraient leur manquer. Les philosophes esquissent le plan, le modifient ou le rejettent, suivant leur habitude. Rome la Sainte y possède seule des provinces qui lui donnent de bons revenus. Les deux couronnes du monde invisible soutiennent la troisième, comme le diadème fragile de sa dignité terrestre, et les clés qui ouvrent les deux portes de l'autre monde ouvrent en même temps, d'une manière sympathique, les coffres du monde présent. Ces droits du royaume spirituel, autant qu'on peut le prouver par les raisons de la politique, sont bien au-dessus de toutes les vaines objections des gens d'école. Et l'usage, ou l'abus qu'on en peut faire, est trop respectable déjà pour qu'il soit nécessaire de se soumettre à un si indigne examen. Mais les contes vulgaires, qui trouvent tant de créances, et qui sont au moins si mal combattus, pourquoi donc circulent-ils si inutilement ou si impunément, ou pénètrent-ils jusque dans les sociétés savantes, quoiqu'il n'ait pas en leur faveur la preuve tirée de l'utilité, argumentum ab utili, la plus persuasive de toutes? Quel philosophe, placé entre les attestations d'un témoin oculaire plein de bon sens et de la persuasion la plus ferme, d'une part, et la résistance intérieure d'un doute invincible, d'autre part, n'a fait quelquefois la plus sotte figure qu'on puisse imaginer? Niera-t-il absolument la vérité de toutes ces apparitions? Sur quelles raisons se fondera-t-il pour les réfuter? N'accorda-t-il qu'un seul de ces récits comme vraisemblable? De quelle importance ne serait pas un pareil aveu? Et quelles conséquences merveilleuses n'en tirera-t-on pas un seul événement de ce genre, peut-être regardé comme établi? Il y a encore un troisième cas, celui de ne point s'occuper du tout de ces questions curieuses ou oiseuses, et de s'en tenir à l'utile. Mais ce parti, précisément parce qu'il est raisonnable, est toujours rejeté à la pluralité des voix par les vrais savants. Comme il n'y a pas moins de sots préjugés à ne rien croire sans raison de ce qui est raconté par un grand nombre avec quelque apparence de vérité, qu'à croire sans examen tout ce que débite la rumeur publique, l'auteur de cet écrit, pour échapper au premier de ses préjugés, s'est laissé en partie aller au second. Il confesse avec une sorte d'humilité qu'il a été assez bon pour rechercher la vérité de quelques récits de cette espèce. Il a trouvé, comme il arrive d'ordinaire quand il n'y a rien à chercher, il n'a rien trouvé. Or, c'est déjà là une cause suffisante en soi d'écrire un livre. Mais à cela s'ajoutait encore ce qui a plus d'une fois arraché des livres à la modestie des auteurs. Je veux parler des instances d'amis connus et inconnus. De plus, un gros ouvrage était acheté, et, ce qu'il y a de pis, était lu, et cette peine ne devait pas être perdue. Il en est donc résulté le présent mémoire, qui, ainsi qu'on s'en flatte, doit pleinement satisfaire le lecteur sur la nature de la question. Puisqu'il ne comprendra pas le principal, qu'il ne croira pas une autre partie, et qu'il se moquera du reste.